Donc, Frédéric Sachevald est directrice de l'Observatoire des sciences et des techniques et Vifredo Mecheba est data scientist dans cette institution. Et leur travail portera sur la caractérisation des publications en mathématiques de la France entre 2000 et 2015. Et ils sont l'auteur d'un rapport que vous pouvez, je pense, consulter sur Internet. Rapport sur la position scientifique de la France dans le monde entre 2000 et 2015, qui n'est pas une mince affaire. Voilà, je vous donne la parole.
Bien, merci beaucoup. Oui, nous sommes, Vilfredo et moi, très, très heureux de participer à ce colloque parce qu'effectivement, la présentation que je vais vous faire, je vais me mettre là peut-être, en fait, se base sur une partie de ce rapport qui est plus générale. Donc, contrairement à beaucoup des intervenants précédents, nous ne sommes pas mathématiciens de profession, ni même spécialisés dans l'analyse des mathématiques, mais nous sommes arrivés à ce sujet par l'intermédiaire d'une analyse plus générale de la production scientifique française. Donc justement, dans le plan, je dirais un mot rapidement sur la motivation plus précise. Et puis ensuite, je vous donnerai quelques informations sur le périmètre de l'analyse et notre méthode. Il y aura des liens avec ce qu'a fait Jean-Marc Schlenker ce matin, mais aussi des différences. Je vous présenterai quelques résultats. Et puis, j'aborderai des approfondissements à propos de la conclusion et j'espère qu'il pourra y avoir un échange avec la salle. Je vais surveiller mon temps, d'ailleurs. Voilà. Donc, la motivation, j'y reviens. Donc, le rapport a déjà été mentionné. Il est effectivement disponible en ligne sur le site du HCRS. Et derrière tous les graphiques et les tableaux, vous avez les données qui sont disponibles. Et donc, dans la motivation à partir de ce rapport, et aussi la motivation de faire une partie spécifique sur les mathématiques dans ce rapport, est d'abord due à la forte spécialisation de la France dans ce domaine. Spécialisation scientifique, je vous donne la définition de l'indicateur qui est couramment utilisé, consiste à rapporter la part d'une discipline pour un pays, donc dans le total de ses publications, à ce même ratio pour l'ensemble des publications mondiales. Donc la France est effectivement, dans son premier domaine de spécialisation, c'est les mathématiques, avec 1,7, si on veut, pour cet indicateur de spécialisation. Donc effectivement, c'est un pays qui produit relativement à beaucoup d'autres pays, relativement à la moyenne mondiale, beaucoup de publications en mathématiques. Donc ça, c'est... Voilà, un constat. Donc, quand on étudie la France, voilà, c'est une première motivation de se pencher particulièrement sur les mathématiques. Deuxième raison, se combine à cette spécialisation une reconnaissance internationale, notamment à travers des prix internationaux en mathématiques qui sont, on va dire, relativement fréquents. Mais je parle d'un paradoxe des mathématiques en France avec un point d'interrogation, c'était un peu la motivation aussi. Si on regarde des indicateurs d'impact scientifique des publications, eh bien, en revanche, cet indicateur pour la France, je vais y revenir, on va dire qu'il est bon sans plus. Voilà. Donc, comment est-ce que tout ça est cohérent ? Voilà. Donc, c'est un petit peu ça le point de départ de l'investigation un peu plus précise qu'on a faite dans le rapport des mathématiques. Alors, quelles sont les données qu'on a utilisées ? Donc, on a regardé les publications sur cette période, 2000-2015, et on a utilisé deux grands types de données, des données bibliométriques. Donc, la base de publications et de citations qu'utilise l'OST est une version enrichie du Web of Science. Donc, on travaille sur les données brutes et on fait certains enrichissements de cette base. Et par ailleurs, on a combiné ça avec une identification des mathématiciens qui ont reçu des prix internationaux, ceux que j'ai listés là, et qui ont publié sur la période. C'est-à-dire que nous, on repère leurs publications, simplement là, on a défini un petit peu comme Jean-Marc de façon différente, un groupe qui sont ceux qui ont reçu des prix, et on a défini leur nationalité par le pays où ils ont fait leur doctorat. Hein, ce n'est pas leur nationalité de naissance. Mais après, dans l'attribution des publications, on les a gardées à leur pays de doctorat. Même s'ils ont bougé, j'en parlerai, ça a été déjà mentionné, cette question de la mobilité. Et puis pour alléger un peu les comparaisons, on a un référentiel uniquement de 17 pays qui sont mentionnés là, qui sont des pays soit spécialisés en mathématiques comme la France, soit les principaux producteurs de publications en mathématiques. Par exemple, les États-Unis ne sont pas spécialisés en mathématiques, mais sont désormais le deuxième producteur mondial, puisque depuis 2012, c'est la Chine qui est le premier producteur mondial. Donc vous avez ici, donc, par ordre décroissant, de part dans la production totale en mathématiques dans le monde. Donc la France, vous voyez, est à 6% de la production. Je vais revenir sur la nomenclature. De publications en mathématiques, alors que pour toutes disciplines confondues, on est un petit peu au-dessus de 3%. Hein, donc c'est comme ça qu'on calcule l'indicateur de spécialisation. Et puis on a fait quelques entretiens avec des mathématiciens et mathématiciennes pour commencer à tester un peu certains résultats. Donc, avoir des regards un petit peu différents, on a pour cette présentation, dans le rapport, il n'y a que 3 corpus, mais là, on en a rajouté un. Donc, on a 4 corpus. Le premier... Ah non, ce n'est pas ça du tout. Je voulais pointer, je me suis trompée de bouton. Donc, ça doit être ça, peut-être. Bon, je crois que je vais renoncer.
C'est le bouton du haut.
Pardon, c'est le bouton du haut.
Oui, c'est ça.
Voilà. Très bien. Donc le corpus total OST dont j'ai parlé utilise donc bien sûr la nomenclature du Web of Science qui comporte 4 domaines de recherche qui sont listés là. Donc on retombe sur une discussion qui a déjà eu lieu plusieurs fois au cours du colloque. Mathématiques fondamentales, mathématiques appliquées. Ensuite, on a statistiques et probabilités. Et puis, mathématiques pour applications interdisciplinaires. Alors, dans le Web of Science, comment sont faits ces domaines, comment sont identifiés ces domaines de recherche? Eh bien, c'est par les citations croisées, enfin, les références que les articles se font les uns aux autres et la densité relative de ces références. Donc, la proximité thématique... et de référence entre les articles. Donc, ce domaine, ces 4 domaines permettent de classer, vous verrez, les publications dans les 4 corpus. Donc, le corpus total qu'on appellera OST, le corpus des documents qui sont parus dans les journaux de l'Australian classé A+, par l'Australian Mathematical Society, qui a déjà été mentionné par Jean-Marc, avec qui on avait échangé sur ce sujet. Ensuite, le top 100 des revues, selon l'indice MCQ de Matsinet, et puis, justement, les publications des lauréats, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que sur la période, on aura un corpus des publications qui ont été signées par les lauréats. Alors, une idée un petit peu de volume, hein, parce que vous voyez que ces 4 corpus sont de tailles très différentes. Hein. Alors, le corpus OST le plus général est le plus gros. Sur la période, vous avez près de 600 000 publications donc, qui constituent ce corpus. Et vous voyez, vous avez plus d'un millier de revues. Alors, revues, articles, c'est mentionné en bas. On a ces types de... décidément, j'y arrive pas. Ces types de documents sur lesquels nous travaillons. Donc, quand je dis article, ça veut aussi dire proceedings. Hein, les deux, c'est pas seulement des articles de revue dans un sens très strict, mais aussi des publications de proceedings aussi avec référés, etc. Donc, quand je dis article, c'est un petit peu plus général que ça. Et puis, les comptes que vous avez ici sont des comptes fractionnaires, comme ce matin. Hein. C'est-à-dire que s'il y a trois auteurs, on attribuera un tiers à chacun des auteurs de l'article, de façon à pouvoir sommer et faire des pourcentages. On pourrait le faire en compte entier à chacun, mais ça introduit des problèmes spécifiques. Donc, le plus gros corpus, c'est celui-ci. Le second en taille, c'est celui de l'Australian Mathematical Society, avec un nombre de revues beaucoup plus faible. Et puis, un point particulier concernant MathCinet, les 100 coefficients les plus élevés, donc ces 100 revues ayant les coefficients les plus élevés dans MathCinet, en fait, nous, on n'en a retenu que 65, parce que par rapport à notre nomenclature, les autres n'étaient pas classés en mathématiques. C'était plutôt l'essentiel des autres, c'était physique ou informatique. Donc on retombe sur cette question de la nomenclature, et de façon à pouvoir faire les ratios dont on a besoin, si on voulait rester dans l'univers des mathématiques et être comparable aux autres corpus, on a retiré les revues qui n'étaient pas classées en mathématiques, hein, donc qui étaient plutôt en physique ou en informatique, ce qui, effectivement, peut-être par rapport à des résultats qui ont pu être montrés ce matin, peut introduire des différences, encore que vous allez voir qu'il y a beaucoup de points communs. Et puis, donc, le dernier corpus, c'est le plus petit. Donc, on a juste moins de 1500 publications. Hein, et vous voyez aussi que, donc là, j'ai repris les trois principaux domaines de recherche en mathématiques, donc fondamentales appliquées, statistiques et probabilités. Le dernier étant, disons généralement, il ne représente que 7% des publications mondiales, donc applications pour d'autres disciplines. Mais c'est vrai que dans certains corpus, il peut représenter un petit peu plus. Donc, j'aurais pu le garder dans ce tableau. Mais vous voyez que la répartition selon les trois domaines est assez différente suivant les corpus. Hein. Et en particulier, la part des mathématiques fondamentales pour les primés est très élevée, hein, par rapport aux autres. Bon, j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, quels sont les indicateurs qui sont utilisés ? Les indicateurs simples de part mondiale, de la discipline, des domaines de recherche, les indices de spécialisation, des impacts moyens et des impacts à travers les publications les plus citées. Alors, la fenêtre qu'on a choisie, c'est 5 ans, parce que l'analyse qu'on a faite, c'est qu'après 5 ans, les rangs des pays ne changent plus. Hein, même si le nombre de citations de tel ou tel papier peut continuer à augmenter, mais ça ne va pas changer les rangs entre les pays, qui est ce que l'on regarde ici. Et puis, on a travaillé aussi sur les copublications, mais je n'aurai pas le temps de vous parler de ces résultats-là, mais ils sont dans le rapport. Et donc, on travaille en compte fractionnaire sur les indicateurs indiqués ici. Alors, une sélection de résultats. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, selon les pays du référentiel, vous avez la répartition, la part des 4 domaines de recherche que j'ai mentionnés. Donc, vous voyez, globalement, le maths pour application interdisciplinaire est un petit domaine. Hein, dans le corpus le plus général. Alors, ce que vous pouvez voir ici, effectivement, c'est les différences selon les pays. Et si vous prenez la France qui est ici, c'est rangé par ordre décroissant de la part des mathématiques fondamentales. Donc, vous voyez que la France est un des pays où les mathématiques fondamentales sont relativement élevée. Dans le référentiel ici, c'est la Russie qui a cette part la plus élevée. Alors, ici, vous voyez la part de chacun des pays selon trois corpus. La base OST, donc générale, les revues A, Australian Society, et puis MCQ. Et vous voyez que ça varie selon les corpus. Alors, en particulier, j'ai mis des flèches vers le bas pour montrer que quand on passe du corpus le plus général au corpus plus sélectif, d'une manière ou d'une autre, la part de la Chine, de la Russie, de l'Iran et de la Roumanie baisse sensiblement. Et c'est l'inverse pour les États-Unis, la France, notamment, je ne vais pas citer tous les pays, Israël et l'Autriche. Hein. Donc, schématiquement, on peut dire que les pays à haut revenu, les pays anciennement scientifiques, ont tendance à voir leur part augmenter dans les corpus plus sélectifs, et que c'est l'inverse pour les pays émergents, si on veut aller vite. Là, on est sur les lauréats des prix, donc le corpus qui n'était pas sur le graphique précédent. Et donc, vous avez sur l'échelle de gauche le nombre de publications des lauréats de prix sur la période par pays. Donc, à nouveau, hein, leur pays, c'est le pays du doctorat, de leur doctorat. Hein. Donc, le graphique est ordonné comme ça, par l'ordre des publications, mais les points représentent le nombre des mathématiciens primés, et ça, c'est l'échelle de droite. Hein. Donc, vous voyez que les États-Unis ont à la fois le plus grand nombre, sont en rang 1, à la fois pour le nombre de mathématiciens et pour le nombre de publications, mais pour certains pays, ils n'ont pas le même rang. Alors, on peut prendre la Russie, qui a plus de mathématiciens primés que son rang en termes de publication, et la Belgique, eh bien, ça va être l'inverse. Hein. Et ça, ça peut être en partie dû aux questions de mobilité, puisque les mathématiciens qui font leur doctorat en Russie, eh bien, ils peuvent après bouger. Et je voudrais juste, j'ai rajouté cette diapositive pendant le colloque, c'est un peu une parenthèse, c'est sur la mobilité et c'est pour être complémentaire avec la présentation de ce matin. Donc, vous avez ici le pays du doctorat. Hein, et donc, vous avez la taille du... La hauteur pour chaque pays est proportionnelle hein, au nombre donc de mathématiciens qui seront primés et qui ont fait donc leur doctorat dans chacun de ces pays. Et puis vous avez en mauve ceux qui vont bouger. Et ici, vous avez où ils sont au moment où ils reçoivent le prix. Hein. Et donc on retrouve les résultats un petit peu qu'on a déjà vus ce matin. Premièrement, les États-Unis sont des grands producteurs de mathématiciens, mais à l'arrivée, ils en ont encore une proportion bien plus grande. Hein. Et la Russie est dans une situation inverse, hein, où elle perd énormément de mathématiciens qui vont dans des pays différents. Hein. Ils vont aux États-Unis, mais ils ne vont pas qu'aux États-Unis. Et bon, le pays qui nous intéresse un peu ici, c'est la France. Alors, la France, elle a une propriété un peu remarquable, c'est la stabilité de ces futurs primés, hein, qui ne bougent pas énormément. Et on a fait le même constat dans le rapport pour les prix Nobel. Hein, on a une assez grande stabilité. Et en mathématiques, en plus, la France est attractive, hein, puisqu'elle a notamment des mathématiciens qui viennent du autre. Là, les autres, c'est des petits pays, par exemple la Belgique. Voilà, l'Allemagne, par exemple, ici, vous voyez, va perdre en quelque sorte plus, relativement plus, de mathématiciens que la France. Donc, bon, ça c'était un petit peu une parenthèse sur la mobilité, mais quand vous regardez ça et la différence entre les publications, parce que quand on regarde la base des publications, on regarde la publication quand les gens ils signent là où ils sont. Donc, s'ils ont bougé, voilà. Tandis que nous, pour notre corpus des mathématiciens privés, on a conservé leur nationalité. Voilà. Donc, ça, c'était pour un petit peu cadrer les quantités, les parts des différents pays selon les corpus. Donc, là, ce que l'on regarde, c'est la spécialisation par domaine de recherche, c'est-à-dire à l'intérieur des mathématiques, les quatre domaines dont j'ai parlé. Si on calcule un indicateur de spécialisation non pas mathématiques versus les autres disciplines, mais à l'intérieur, on voit que c'est très variable. Vous avez des pays d'abord qui ont des indices de spécialisation très forts et d'autres qui ont des indices beaucoup plus faibles. Et puis, par sous-discipline, c'est très variable. On retrouve donc la forte spécialisation en maths de la Russie, mais qui tient beaucoup aux maths fondamentales. On retrouve la spécialisation de la France, et la France est un des rares pays, finalement, qui est spécialisé, donc relativement au monde, dans les quatre sous-disciplines. Les autres pays qui sont dans ce cas-là, c'est l'Espagne, j'ai dû le marquer, voilà, Israël et l'Iran. Sinon, les autres pays, ils peuvent être spécialisés dans certains domaines et pas dans d'autres. Par exemple, si je prends les États-Unis, globalement, les États-Unis ne sont pas spécialisés en mathématiques, ils le sont dans un seul sous-domaine, c'est statistiques et probabilités. Donc, voilà, des profils qui, quand on creuse les Pays-Bas aussi, sont spécialisés dans ce domaine et très non spécialisés en mathématiques fondamentales et en mathématiques appliquées. Et puis, dernier, peut-être, pays d'intérêt à mentionner, la Chine, où là, vous voyez que c'est les mathématiques appliquées qui tirent la spécialisation en mathématiques de la Chine. Donc, voilà pour détailler un peu plus les profils. Et maintenant, on va reprendre les trois principaux domaines de recherche en mathématiques. Et on ne regarde plus la spécialisation, on regarde l'impact à 5 ans, c'est-à-dire le nombre de citations par publication pour ce pays normalisé par ce ratio au niveau du monde. Comme ça, selon que vous êtes, par exemple, entre les mathématiques fondamentales et les mathématiques appliquées, S'il y a une tendance à citer plus dans un cas que dans l'autre, c'est corrigé par la moyenne mondiale. Vous avez la formule de calcul là-haut. Donc, j'en viens à ce point que je mentionnais en introduction. Donc, ce que l'on voit ici, dans le cas de la France, c'est que, donc là, on est par ordre décroissant de l'indice d'impact en mathématiques fondamentales. Donc, la France, là, dans ce référentiel, est en cinquième position avec un indice qui est un peu au-dessus de 1,1, donc disons 15% au-dessus de la moyenne, de la moyenne mondiale en mathématiques fondamentales. Mais vous voyez que l'indicateur est beaucoup plus faible, beaucoup moins favorable, d'abord en mathématiques appliquées et en mathématiques, en statistiques et probabilités. En fait, la France est juste à la moyenne mondiale. Puisque là, elle est à 1. Vous voyez, le graphique est ordonné par rapport à 1. Voilà, on voit un premier résultat, c'est que la performance en termes, d'influence académique ou scientifique, telle qu'il est, approché, mesuré par cet indicateur d'impact pour la France, il est vraiment tiré par le domaine mathématique fondamental et la France est dans une moins bonne position pour les autres domaines de recherche. Et vous voyez que c'est très différent pour d'autres pays. Alors, si je prends les États-Unis, que je mentionne ici, bon, les États-Unis ont des indicateurs, favorables dans les trois domaines, et notamment donc en statistique probabilité, mais les performances dans ce domaine-là sont très élevées pour la Grande-Bretagne, la Belgique et là-bas les Pays-Bas. Et puis, commentaire à droite du graphique, donc les pays qui ont des faibles impacts, on retrouve la Russie qui est très spécialisée en mathématiques, mais qui, ça a aussi été dit ce matin, pour des raisons diverses, et ça s'est sûrement accentué, dans le courant des années 2000. Bon, ça se redresse un petit peu, mais les publications russes ont un impact faible. Alors ici, je l'ai mis en blanc. Ça ne se voit pas forcément beaucoup. Je n'ai pas fait un graphique spécifique, mais on a calculé donc, ces mêmes indicateurs pour les lauréats des prix internationaux. Alors, bien sûr, il se confirme que les lauréats des prix internationaux ont des indicateurs beaucoup plus élevés que la moyenne, l'ensemble des mathématiciens, puisque cet indicateur, vous voyez, pour les États-Unis, il vaut 16, alors que, bon, il est concentré en mathématiques fondamentales. Si on prend les États-Unis ici, en mathématiques fondamentales, ils doivent être à 1,5. Donc, vous voyez, c'est quasiment 10 fois plus pour les auteurs hein, qui ont été lauréats de prix en mathématiques. Mais on retrouve quand même une différence entre les États-Unis, la Belgique, qui est à 7,5 pour ses lauréats, et la France, qui est à 6,5, et la Russie, pour lesquelles ça va être inférieur à 6. Donc, à la fois, les lauréats de prix internationaux ont des publications qui ont un impact très supérieur à ce qu'il est pour l'ensemble des mathématiciens du même pays, mais on conserve une différence entre les pays. Je vous ai mentionné que cela parce que malheureusement, l'échantillon des, vous avez vu tout à l'heure, des publications des mathématiciens primés, quand on le regarde par pays, ça finit par faire pas beaucoup de publications, donc on a gardé que ceux qu'on avait plus de 50 sur la période.
Oui. Oui. Quel sens vous attribuez au fait que un lauréat, c'est quand même des mathématiciens exceptionnels, hein, que vous avez mentionné. Quelle signification vous avez au fait que c'est aux États-Unis il y a un impact de 16 et en France un impact de 7,5 ou en Russie moins 6 Est-ce que ça veut dire que les gens qui attribuent les prix ont mal jugé? Est-ce que ça veut dire que ces chiffres sont peut-être à prendre un peu avec des pincettes
Ça fait partie des choses pour lesquelles je suis contente d'être là, parce que vous avez, moi, dans les mathématiciens que j'ai pu interroger, souvent, ils avaient une connaissance un peu personnelle. Je veux dire, ils connaissaient les travaux des mathématiciens en question, enfin, des mathématiciens primés, et ils pouvaient faire des commentaires sur, oui, un tel, il est extraordinaire, ou il est dans tel domaine, enfin, bon. Donc, moi, j'ai pas d'explication. Je constate ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a une certaine corrélation entre l'ensemble des publics. Enfin, c'est pas entre les rangs, si on veut. Hein, il y a une certaine corrélation entre les rangs, mais sur le fait que j'ai pas d'explication très 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 détaillée en fonction des profils. La seule chose que je peux Enfin, qu'on a vraiment constaté concernant les mathématiciens primés, c'est qu'ils publient vraiment essentiellement en mathématiques fondamentales. C'est-à-dire que si on redistribue leur publication selon la nomenclature que l'on a, avec les revues que l'on a, on les retrouve quand même essentiellement en mathématiques fondamentales, un petit peu en appliqué, un petit peu en stade probat, mais bon. Et ça, c'est valable pour tous les pays, enfin, pour tous les pays qu'on a regardés. C'est-à-dire les pays qui sont là, de ce point de vue-là, même les États-Unis, qui ne sont pas spécialisés en mathématiques fondamentales, leurs primés le sont.
C'est juste un mot, mais je ne veux pas rallonger le... C'est, en fait, la citation, ce n'est pas simplement un jugement de valeur, c'est aussi une monnaie de crédit scientifique, c'est tout. Et donc, ça dépend de la taille de la communauté, de l'énergie d'échange au sein de la communauté, etc., etc., et de la constitution d'un capital de crédit qu'on veut se répartir entre membres de la communauté. C'est évidemment aussi une des fonctions de la citation.
Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez dire que les États-Unis sont favorisés par leur taille?
Aussi, et par peut-être des liens internes de la communauté. Ça veut dire quelque chose sur la structure d'une communauté aussi, la citation. Ça n'est pas un jugement porté par un individu sur l'usage absolu en fonction de la valeur absolue d'un papier. Ça, c'est
non, d'autant plus que là, derrière, ce n'est pas
Michel
un papier Zitt qu'il y a.
Enfin,
c'est
appris c'est, abondamment.
En général,
le pape de la scientométrie française m'en a parlé, Dieu sait, beaucoup, et avec Jacques, on en a parlé aussi. La citation est un objet complexe, comme vous savez. Enfin, je ferme la parenthèse, sinon nous déborderons trop.
Est-ce que l'impact peut être affecté par la langue dans laquelle a été faite la première publication?
Ah, la première publication. Alors,
est-ce que les Russes sont pas défavorisés par le fait
que... Ben si, ça, je crois que, Jean-Marc en avait dit un mot. Mais peut-être que je vous parle de la base, pour vous dire un mot de la base d'origine dans laquelle on retrouve toutes les publications et donc à partir de laquelle on a les citations. C'est une base qui est très largement en anglais, mais pas exclusivement. Le critère, un critère de nécessaire, c'est d'avoir des résumés en anglais. Hein, mais après, les articles ou certains articles des revues peuvent être dans des langues nationales diverses. Nous, on a un petit peu regardé, notamment en statistiques probabilité, on a trouvé des revues françaises, on a trouvé des revues de différents pays. Maintenant, à l'intérieur, vous pouvez avoir aussi, vous pouvez avoir une revue française avec des articles en anglais. Hein. Mais la question précise que vous posez, l'article de publication, le premier article, ça, moi, j'ai pas de référence de référence en tête. Oui.
En fait, dans les entretiens qu'on a vus, on a posé cette question. Il était apparu que les publications mathématiques ne souffraient pas de ce biais, puisque les publications mathématiques sont listées pratiquement en fait. En tout cas, c'est ce qu'on a donné.
Oui, enfin, il me semble que dans les mathématiciens qu'on a pu interroger. La vie n'était peut-être pas forcément toujours complètement tranchée sur ce sujet. Mais ce n'est pas une question qu'on a creusée, en tous les cas. Ce n'est pas une question qu'on a creusée. Mais ce que je peux dire par rapport à la base, parce que nous, contrairement à ce qu'a fait Jean-Marc et à ce qu'ont fait d'autres interventions dans le colloque, on ne fait pas d'études longitudinales. On a une période, mais en fait, sur la période, on ne suit pas des individus, même nos primés, on a pris leur publication, on n'a pas cherché à voir les étapes de carrière particulièrement, voilà, donc on n'a pas...
Il faut que je fasse attention à l'horaire.
Oui, bon, alors j'avance, sauf madame, si c'est une question de clarification.
Question.
Bon, bah c'est alors, bon, c'est, ouais. C'est, je prendrai à la fin.
Je... Hmm?
Alors, en fait, je vais faire une clarification supplémentaire pour voilà. Quand ici, on attribue une publication à la Russie, c'est à son adresse. C'est-à-dire que ce sont bien des Russes qui travaillent en Russie. S'ils ont émigré dans ce graphique-là, s'ils ont émigré en France, ils vont être attribués à la France, contrairement à ce qu'on a fait pour les primés. Hein. Donc, les Russes qui ont émigré et qui travaillent désormais dans des institutions étrangères, ils sont là où ils ont signé. Hein. S'ils sont dans une université française, ils signent une université française, ils seront dans la France, hein, même s'ils sont russes de nationalité. Et donc là, ce que l'on a fait, là on était sur le corpus le plus général par domaine. Ici, on a trois corpus différents, mais on est sur, on n'a pas fait de détails par domaine. Mais je redis, hein, pour les deux corpus plus spécialisés, on a un poids des mathématiques fondamentales qui est plus fort. Et ce que l'on voit, c'est que les rangs, hein, en termes d'indicateurs d'impact, eh bien, changent selon le corpus. Hein. Donc ici, on retrouve celui de la base générale. Donc là, vous avez... La Russie, hein, qui était à droite, c'était dans le sens inverse précédemment. Vous avez les États-Unis qui sont ici et la France qui est ici. Et quand on passe au corpus ici des revues Australian Mathematical Society, vous voyez que certains pays augmentent beaucoup leur impact, c'est-à-dire que pour ces revues sélectionnées par l'Australian Mathematical Society, eh bien, l'indice d'impact de l'Autriche est sensiblement plus élevé et, à l'inverse, il va être plus faible pour l'Italie, plus faible pour les États-Unis, un peu plus faible pour la France. Hein. Et plus élevé, oui, ça c'est remarquable, pour la Chine. Alors, ce qui se passe, et c'est aussi un peu le cas pour MCQ, je dirais que c'est un petit peu... Bon, il y a des nuances, mais voilà, on a... plutôt une opposition entre la base la plus générale et les deux bases plus sélectives. Ce qui se passe, c'est que dans ces deux bases, on l'avait vu tout à l'heure, les pays émergents et la Russie, en fait, ont une part très faible de leurs publications qui se retrouvent dans ces revues sélectives. Mais quand on regarde ensuite les impacts des articles qui ont été publiés dans ces revues sélectives, eh bien, il s'avère qu'ils sont plutôt plus élevés hein, que la moyenne. Donc là, une hypothèse qu'on peut avoir, c'est qu'ils ont été en quelque sorte hyper sélectionnés hein, et que les articles de ces pays qui sont publiés effectivement dans ces revues ont été extrêmement sélectionnés. Alors il y a une autre hypothèse, une autre hypothèse qui pourrait être que dans la mesure où ces articles sont rares, que ces pays ont peu d'articles qui sont publiés dans ces revues, peut-être qu'il y a à nouveau un phénomène que vous suggériez de communauté et qu'ils vont être très cités par la communauté chinoise ou russe parce qu'ils ont réussi. Bon, voilà. Mais là, j'ai pas de. Voilà, c'est des hypothèses. Hein, mais on constate que les pays qui sont très présents, qui ont une part importante de leurs publications en mathématiques, qui sont dans ces revues sélectives, eh bien, dans certains cas, ça fait baisser. Leur indice d'impact, ça peut inverser des rangs entre pays. Ils ont une part beaucoup plus forte, c'est le cas de la France. La part de la France dans ces deux ensembles sélectifs de revues est beaucoup plus élevée que sa part dans la base OST. On passe de 6% à plus de 10%. Mais en termes d'impact, ça va un petit peu dans l'autre sens. Donc j'en viens aux conclusions que j'ai déjà un petit peu en partie données. Donc d'une certaine manière, on a résolu un petit morceau du paradoxe. Hein. La France est spécialisée dans tous les domaines de mathématiques, mais ses performances sont bien meilleures en mathématiques fondamentales que dans les autres domaines. Donc Elle repose, ses performances sur l'ensemble des mathématiques, repose beaucoup sur les mathématiques fondamentales. Ensuite, la part de la France, donc sa part mondiale des publications, est d'autant plus élevée que le corpus est plus centré sur les mathématiques fondamentales, ce qui est un petit peu complémentaire de ce que je disais précédemment. Et maintenant, au sein de ces corpus sélectifs, les impacts de la France ne sont pas particulièrement élevés. On vient de voir les deux corpus sélectifs. J'avais mentionné les chercheurs primés précédemment. Et là, la question qu'on pourrait se poser, c'est celle de la concentration au sein donc, de ces mathématiques fondamentales, au sein de différents corpus. La concentration peut-être sur un nombre limité, finalement, de mathématiciens des performances. Donc là, il faudrait descendre à un degré plus fin et examiner la distribution sur les chercheurs pour voir si on a en quelque sorte des leaders, hein, si on aura une concentration en France des citations sur un nombre très, très limité de chercheurs. C'est une question qu'on peut se poser. Et puis la dernière, sur laquelle j'espère certains d'entre vous réagiront. Donc, la France est aussi spécialisée en statistiques et probabilités qu'en mathématiques fondamentales, selon l'indicateur de spécialisation. Mais là, pour le coup, les indicateurs d'impact sont faibles hein, à l'échelle mondiale. Alors, une des pistes que l'on a, ce serait de distinguer statistiques et probabilités. Parce que les propensions à citer sont apparemment plus forte en statistique qu'en probabilité. Et donc, si la France est spécialisée à l'intérieur de stade proba en probabilité, elle pourrait être défavorisée dans le calcul des indicateurs. Et effectivement, un des tableaux qu'a montré Jean-Marc ce matin suggérait bien que la France, à l'intérieur de stade proba, est en fait très spécialisée en proba et pas tellement en statistique, ce qui, quand on agrège, pourrait être en sa défaveur. Donc ça serait quelque chose d'intéressant à creuser. Et ensuite, dans un contexte où les probabilités, je ne parlerai pas de beauté des statistiques, même si moi j'y trouve un certain intérêt, mais ont une grande utilité. On pourrait après s'interroger sur justement est-ce que la France évolue dans sa spécialisation en faveur des statistiques ou pas. Enfin, ça pourrait être après un examen en fait de la population hein, des chercheurs dans les deux sous-disciplines. Voilà.
Merci.